Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, à la une, rencontre hier à Kinshasa entre le président Tshisekedi et les évêques de la CENCO-ECC. Ces derniers sont allés remettre au chef de l'État leur rapport de mission après une tournée dans le pays et à l'étranger. Mission qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs et la RDC en particulier. La RDC prolonge la suspension temporaire des exportations de cobalt pour une période de 3 mois. Raison, le niveau toujours élevé des stocks sur le marché. Cette décision fait suite à celle prise antérieurement par le conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Et puis, l'invité de ce midi, Dominique Tremblay, citoyen canadien. Il est conseiller en pédagogie à l'Académie des sciences et technologies, une école canadienne opérationnelle à Kinshasa depuis 2017. Cet établissement vient d'introduire le système de 2 diplômes en une vacation, soit un diplôme congolais et un autre canadien. Il en donne l'importance dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République a reçu hier samedi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et ceux de l'Église du Christ au Congo, ECC. Ces leaders religieux sont allés remettre au chef de l'État le rapport de leur mission portant sur le pacte social qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs en général et au Congo en particulier. Compte rendu de Jean Gandou.
Ce rapport fait état de la mission effectuée tant au pays qu'à l'étranger à l'initiative des évêques de ces 2 confessions religieuses. Ils ont rencontré certains chefs d'État de la région, de l'Europe et autres responsables politiques aux États-Unis pour leur expliquer le sens de la démarche qui se fonde sur la recherche d'une paix durable dans la région. Cette rencontre avec le président de la République a duré environ 2 heures. Au sortir de l'audience, Mgr Donatien Cholet a indiqué, je cite, « Le président de la République a eu le temps de nous écouter et nous aussi nous l'avons écouté », fin de citation. Il a renchéri en soulignant que le plus important est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. Pour le secrétaire général de l'ECC, la réunion avec le président de la République a tourné autour de 2 points saillants, à savoir faire le rapport d'information des consultations menées au pays et à l'étranger et mettre en place une équipe qui va travailler avec eux sur les initiatives du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble pour envisager une autre étape. Pour rappel, lors de l'audience accordé au leader de l'opposition Martin Fayoulou par Félix Tshisekedi il y a quelques semaines, le leader de la Mouka avait aussi demandé au président de la République de recevoir les évêques de l'Église catholique et de l'ECC pour les écouter après leur mission.
Pendant ce temps, les communautés Mbole et Lingola dans la province de la Tshopo fument le calumet de la paix. Elles ont pris l'engagement d'enterrer définitivement la hache de la guerre et à vivre dans la paix, la cohésion et la cohabitation pacifique comme par le passé. Ces engagements ont été pris hier à Osio en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que différentes autorités tant nationales que provinciales. C'était à l'occasion d'une cérémonie rituelle de réconciliation entre ces 2 communautés. Témoin de l'événement, Jacques Moukonkolé.
Au cours de cette cérémonie, les 2 communautés se sont demandé pardon mutuellement pour toutes les atrocités commises pendant plus de 3 ans. Ils ont promis devant Dieu et l'État de ne plus jamais récidiver afin que vive à jamais la paix dans leurs milieux respectifs. Maurice Abibou Sakapela, notable de la communauté Lingola.
Que de sang versé par nos compatriotes jaillisse la cohésion, l'unité, la concorde et surtout la cohabitation pacifique entre les Mbole et les Lingola.
Le même engagement a été pris par la communauté Mbole, conduite par son président Kanga Wakanga. Les récalcitrants devront désormais répondre seuls de leurs actes devant l'État et les ancêtres, comme l'a dit son représentant.
Prenons l'engagement de nous désolidariser avec toute personne qui tenterait et tous les autres qui s'impliqueront à s'engager au retour de ces atrocités.
Le ministre de l'Intérieur dit croire à un engagement sincère et sans équivoque pour la réconciliation des 2 communautés. Jacquemin Chabani les exhorte à des actes concrets.
Il s'agit principalement de la libération des villages occupés, la reprise des activités agricoles par toutes les communautés.
Jacquemin Konkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, signalons l'ouverture demain lundi au centre commercial d'Arou du dialogue entre les groupes armés locaux actifs dans la province. Arou est situé à 260 km de la ville de Bounia. Les leaders de ces groupes armés, les délégués des différentes communautés, des organisations non gouvernementales ainsi que plusieurs autres responsables civils, militaires et policiers prennent part à cette rencontre initiée par le gouvernement provincial avec l'accompagnement de la MONUSCO. Mais qu'attendent les habitants de l'Ituri de ce dialogue? Jean-Claude Loki.
Durant 5 jours, les participants vont passer au peigne fin l'accord de paix signé dans la même cité par les différents groupes armés en mai 2023. Ces derniers avaient pris l'engagement solennel d'œuvrer pour le retour de la paix. Plus de 2 ans après, des voix s'élèvent pour condamner la poursuite des violences. C'est le cas de l'ONG Synergie des jeunes filles de l'Ituri dont la coordinatrice s'indigne de voir les violences sexuelles, les viols, les tueries contre les jeunes filles et les femmes se poursuivre. De son côté, Jean-Marie Ezadri de la société civile de l'Ituri exhorte les leaders communautaires d'être des catalyseurs, envie de convaincre les leaders de ces différentes milices à respecter leurs engagements. Pour lui, l'instabilité dans laquelle cette province est plongée depuis 2027 freine son développement. Gloire Abassi, le président du Parlement des jeunes de l'Ituri, demande au gouvernement congolais d'appliquer la force si cette fois ces groupes armés ne respectent pas leurs engagements. Cependant, le gouvernement devra disponibiliser des moyens pour permettre aux candidats volontaires au désarmement de regagner la vie civile. C'est à ce prix-là que l'Ituri pourra retrouver la paix et la stabilité, estime Gloire Abassi. Bounia, Jean-Claude Lucky, Guilé, Radio Kapi.
Et au Nord Kivu, le calme est revenu ce dimanche dans la localité de Nyanzale, dans le territoire de Rutshuru. C'est après la panique occasionnée par la chute des nombreux obus tout l'après-midi d'hier samedi. Des sources dans la région indiquent que cette attaque attribuable aux rebelles du M23 visait la localité de Kiyeye dans le groupement Mutanda. Kiyeye est un village de la localité de Mubirubiru, jugé stratégique et sous occupation des combattants Wazalendo au CMC. Récit des faits avec Jean Gandou.
Des salves d'obus ont été à la base d'une panique généralisée obligeant certaines familles à se réfugier dans la forêt. Même les personnes déplacées internes qui sont installées depuis un moment à Nyanzale ont été contraintes à quitter la zone pour trouver refuge loin du centre. Tous redoutent la dégradation de la situation dans l'éventualité d'une riposte des Wazalendo, expliquent les sources locales. Les rebelles du M23 et les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, se livrent régulièrement à des provocations mutuelles qui conduisent souvent à des violents affrontements occasionnant des victimes parmi la population civile. Déloger les Wazalendo du village de Kiyeye semble crucial pour les rebelles du M23 qui tiennent à s'assurer le contrôle de la route Nyarubande-Mueso dans le but de faciliter leurs opérations dans la région. La présence des Wazalendo à Kiyeye constitue ainsi un obstacle dont les rebelles tiennent à se débarrasser. À la faveur de l'accalmie de ce dimanche, certaines familles qui s'étaient déplacées hier commencent à regagner Nyanzale. Toutefois, aucun bilan du pilonnage d'hier n'est encore disponible ce dimanche.
Je vous le disais en titre, la RDC prolonge la suspension temporaire des exportations de cobalt pour une période de 3 mois. Vanessa Kongolo a lu pour nous le communiqué de presse du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOMS. Elle nous en donne les détails.
Cette décision, qui fait suite à celle prise antérieurement, a été rendue publique ce samedi à travers un communiqué de presse du conseil d'administration de l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOM. Ce document est porté à la connaissance des opérateurs du secteur minier, stipé que le 21 juin 2025, le conseil d'administration de l'ARECOM a adopté des mesures réglementaires significatives dont le point saillant sont notamment la prolongation de la suspension temporaire en raison du niveau toujours élevé des stocks sur le marché pour une période supplémentaire de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour toutes les exportations de cobalt en RDC issues de l'exploitation minière, qu'elles soient industrielles, semi-industrielles ou artisanales. L'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques devrait annoncer une nouvelle décision avant la fin de cette période de suspension. Cette décision modifiera, prolongera ou mettra fin à cette mesure de suspension temporaire, si nécessaire, conclut ce communiqué.
Dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu, les éleveurs du village de Murambi sont confrontés à d'énormes défis depuis le début des conflits dans la région. Murambi est un village agropastoral situé entre Rubaya et Ngungu, non loin des carrés miniers. Plusieurs éleveurs de ce village ont perdu leur bétail volé par des hommes armés. Pour beaucoup, ce n'est malheureusement pas la première fois qu'ils voient leurs troupeaux constitués avec des années d'efforts et de persévérance disparaître en quelques jours. Très résilients, ils tentent de se soutenir, mais leurs défis sont énormes. Jude Mister Bilanda nous en dit plus.
À Murambi, de nombreux éleveurs se sont retrouvés sans bétail après les pillages de leurs fermes par des hommes armés pendant la guerre. Pour assurer la survie de leur secteur d'activité, les éleveurs ont mis en place une solidarité locale. Malgré cette entraide, la situation reste difficile, comme l'explique Bizimungu Faustin, secrétaire exécutif de l'association des éleveurs de Massissi, sous-section de Murambi.
Comme éleveurs, nous faisons face à beaucoup de problèmes, comme les vols de nos bétails. Et celui qui a encore un peu de bêtes ne sait pas accéder aux produits vétérinaires pour les soigner. C'est pourquoi les produits laitiers, comme les laits, et les fromages sont très chers sur les marchés. À cause de la guerre, nous avons moins de bétail ici chez nous. Nous essayons d'organiser une assistance. Par exemple, lorsque l'un de nos membres n'a rien, nous trouvons les moyens de lui donner une bête pour qu'il reprenne ses activités. Mais ce n'est pas suffisant.
Ces éleveurs demandent aux autorités de faire tout le nécessaire afin de rétablir une paix durable dans la région. Ils expliquent que si une maison détruite pendant la guerre peut être reconstruite en une année, un éleveur et un perdu 50 vaches ne pourra pas reconstituer son cheptel dans les mêmes laps de temps. Pour eux, l'impact de la guerre sur l'élevage est un fardeau à long terme qui nécessite une stabilité prolongée.
La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. À cette occasion, dans la ville de Butembo, au Nord Kivu, une journée de réflexion sur l'importance de l'écoute et la prise en compte des points de vue des enfants dans la famille et dans la communauté a été organisée samedi. Parmi les participants à cette rencontre, des acteurs de la protection des enfants, des membres du Parlement d'enfants de la ville de Butembo et du territoire de Lubero, ainsi que des cadres de base et responsables des confessions religieuses de la place. Pour les organisateurs, l'objectif est était de rappeler à tous les acteurs la place des enfants dans la communauté, mais aussi rappeler que, comme tout être humain, les enfants ont des droits que nous devons respecter. Rigen Bangai, l'un des orateurs à cette activité, explique. Il est joint par Marc Marofimo.
Aujourd'hui, notre pays est confronté à des problèmes environnementaux, des problèmes sanitaires, des problèmes éducationnels, des problèmes de paix et d'insécurité. Sur tous ces aspects, sur tout ce point, les enfants ont à communiquer quelque chose. En famille, il en est de même. Il y a des problèmes parfois en famille où on pense que l'enfant n'a rien à dire à propos, alors qu'il a un point de vue en donné. Et donc, le 16 juin, c'est une occasion de rappeler chaque adulte, le responsable de famille, le responsable des sociétés et des communautés, les responsables gouvernementaux, religieux, de pouvoir écouter les enfants. Avant de prendre des décisions qui concernent les enfants, il est important d'écouter les points de vue des enfants et, dans la mesure du possible, de prendre à compte les points de vue donnés par les enfants ou carrément l'orienter. Cela non seulement contribue au bien-être de la société de manière générale, mais aussi renforce la confiance à l'enfant, ça aide l'enfant.
Actualité internationale.
Nous sommes en Tunisie. Un tribunal condamne l'ancien président tunisien Moncef Marzouki à 22 ans de prison dans le cadre d'une procédure par contumace. Selon les autorités judiciaires, il aurait commis des actes portant atteinte à la sécurité de l'État, bien que les chefs d'accusation précis ne sont pas rendus publics. Moncef Marzouki, figure emblématique de la transition démocratique post-révolution en Tunisie, avait exercé la présidence entre 2011 et 2014 dans la foulée du soulèvement populaire ayant mis fin à la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Installé en exil à Paris, l'ancien chef de l'État a vivement réagi à cette condamnation sur les réseaux sociaux, qualifiant la décision de nulle. Il dénonce un procès politique et une tentative désespérée du pouvoir en place de museler l'opposition et de détourner l'attention de la crise économique et sociale qui frappe la Tunisie.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Dominique Tremblay, citoyen canadien. Il est conseiller en pédagogie à l'Académie des sciences et technologies, une école canadienne opérationnelle depuis 2017 à Kinshasa. Cet établissement scolaire vient d'introduire le système de double diplomation depuis l'année passée. Ce système, d'après lui, permet à l'élève d'obtenir deux diplômes en une seule vacation, c'est-à-dire un diplôme congolais et un autre canadien. Ce document permet aux lauréats de postuler dans toutes les universités à travers le monde. Mais quelle est l'importance pour un élève d'avoir deux diplômes en une seule vacation? Dominique Tremblay répond aux questions de Blaise Shindani Kambala.
Bonjour monsieur Dominique.
Bonjour.
Dites-nous monsieur, c'est quoi le programme de double diplomation congolaise et canadienne?
C'est un programme qu'on offre à l'école ACITEC, l'Académie des sciences et technologies, et c'est un programme pour les élèves qui veulent obtenir un diplôme d'études secondaires congolais en même temps qu'un diplôme d'études secondaires canadien. Donc, c'est un partenariat qu'on a fait avec un conseil scolaire au Canada qui représente le ministère de l'Éducation du Canada et qui, par un système de cours, permettent aux élèves d'obtenir un diplôme d'études secondaires en plus de leur diplôme congolais sans avoir à faire le double des cours.
Là, vous fonctionnez ici en RDC selon la législation congolaise ou canadienne?
Évidemment, le diplôme congolais est offert par la législation congolaise et le diplôme canadien...
Vous suivez les programmes congolais du ministère de l'Éducation?
Oui, tout national. À fait. On suit le programme congolais à l'école ACITEC, mais on offre une option supplémentaire pour les élèves qui voudraient aussi obtenir le diplôme d'études secondaires canadien. Et ça, on le fait par une série de reconnaissances des acquis, reconnaissance de l'expérience, mais en plus, l'élève va suivre des cours qui sont offerts par des enseignantes et des enseignants canadiens, que ce soit à distance ou souvent les enseignantes et les enseignants vont se déplacer. Par exemple, notre cours d'histoire et de géographie du Canada qui a été offert dernièrement aux élèves de 7e et de 8e année à l'école ACITEC. Donc, l'école existe depuis 2017, mais on a commencé l'an passé le programme de double diplomation. Ce qu'on vise, c'est que les élèves commencent le programme pendant le cycle d'orientation en 7e et 8e année pour leur donner le temps de faire tout ce qui est demandé du diplôme congolais, mais aussi ce qui est nécessaire pour obtenir le diplôme canadien.
Avez-vous trouvé vraiment vous-même que les élèves congolais sont intéressés?
Sont très intéressés. C'était super intéressant de voir l'intérêt pour la culture canadienne, pour la géographie. Ils voulaient en apprendre plus sur ce qui se passe au Canada. Mais on offre aussi une variété de cours canadiens aussi, comme par exemple des cours de littérature canadienne-française. On offre aussi des cours de mathématiques, un cours de technologie des communications. Donc, on a un ensemble de cours qui s'ajoutent aux cours congolais, mais on voulait aussi s'assurer que la charge de travail pour les élèves qui font la double diplomation était raisonnable. Donc, on a travaillé fort avec notre équipe d'orienteurs scolaires canadiens pour s'assurer que c'était possible d'obtenir la double diplomation tout en gardant la charge de travail raisonnable.
Voilà. En termes simples, comment vous pouvez expliquer aux communs des Congolais qui ne connaissent pas ce que c'est la double diplomation congolaise et canadienne? C'est quoi, en termes simples?
C'est qu'en faisant le programme, qui demande quelques cours supplémentaires, à la fin, lors de la terminale, l'élève va recevoir son diplôme congolais et en même temps, le conseil scolaire partenaire au Canada va offrir à ses élèves le diplôme d'études scolaires canadien, de fin d'études secondaires canadien, qui permet évidemment à ses élèves de postuler à des universités, des collèges à l'étranger, que ce soit en Europe, en Amérique, au Canada. Et ça permet peut-être une meilleure transition pour des élèves qui seraient intéressés à passer aux études canadiennes pour le post-secondaire et les études supérieures.
Vous avez dit que ce programme a été lancé depuis l'année dernière ici à Kinshasa.
Oui.
Comment vous l'évaluez vous-même?
Donc, nous, on a une cohorte et évidemment, les élèves sont évalués par des tests, sont évalués par des tâches régulièrement. Nous aussi, on veut s'assurer que les élèves démontrent de l'intérêt. Et récemment, on a fait une série d'entrevues avec les élèves qui nous parlaient des points saillants, des choses qu'ils ont bien appréciées du programme. Et gardez en tête aussi que la CITEC est une école d'éducation entrepreneuriale consciente. C'est une école qu'on appelle une école communautaire entrepreneuriale internationale. Donc, tous les élèves, peu importe s'ils font la double diplomation ou non, reçoivent de l'éducation entrepreneuriale. Et ça, on le voit au jour le jour avec nos élèves qui prennent des initiatives, qui ne font pas qu'attendre que l'enseignant fournisse des connaissances, mais vont entreprendre des projets, vont se questionner, vont utiliser leur pensée critique, résoudre des problèmes. Ça fait partie de l'ADN de l'école, cette éducation entrepreneuriale et ces compétences globales qui sont utiles à tous les élèves.
Monsieur Dominique Tremblay, je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur.
Notre invité est citoyen canadien, conseiller en pédagogie à l'Académie des sciences et technologies, une école canadienne opérationnelle à Kinshasa depuis 2017. Il répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda et Jean Gandou, à la mise en onde d'Eps Vita. Merci d'avoir été des nôtres.